Radio Canet vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Le Vieux. Production. Mise en scène. Julien Jean-Pierre. Enregistrement. CVR. Réveille Frédéric Beaubois Mangargus. Il regarde le réveil sur la table de nuit. 6 heures. Il est temps de se lever. Il sort de son lit en faisant attention de ne pas réveiller sa femme. Il prend ses vêtements qui sont sur une chaise et quitte la chambre. Va dans la salle de bain pour prendre sa douche. Puis, il va à son bureau. Prend dans le tiroir de son bureau une enveloppe de billets de banque. Qu'il met dans la poche revolver de sa veste. Il est habillé en costume gris. Frédéric est grand, fort, a les cheveux blancs, son visage a un côté respectable. Il a 65 ans. Il regarde autour de lui. Eh bien voilà, une page est tournée. Je vais quitter tout ça. Adieu, femme, enfant et ma vie de petit notaire de province. On se marie, croyant aimer, et puis, une fois marié, l'amour se transforme en train-train. Puis, on se dispute, même pour un programme radiophonique. Quant aux enfants, ils ont été faits pour m'empêcher de fuir. Ils m'ont servi de chaîne pendant 40 ans. Maintenant qu'ils sont mariés, la chaîne a disparu. Je peux vivre pour moi, rien que pour moi. Je me suis sacrifié 40 ans de ma vie. Cela suffit. Il regarde autour de lui. Je pars en ne prenant que le minimum. Je vous laisse tout. L'argent que j'ai pris est à moi. Ce sont mes économies personnelles, comme je suis faite durant toutes ces années, sans vous enlever quoi que ce soit. Et il sort du bureau et de son appartement. Il fait presque déjà jour. seulement fin juin. L'air est chaud. Il n'y a presque personne dans les rues. Il se dirige vers la gare. Il a pris un billet pour Lyon. Voici dans un compartiment presque vide. Dans une grande ville, on risque moins d'être remarqué. Et puis les gens vous laissent tranquille. Ils ne s'occupent pas de vous. La solitude, il n'y a que ça. Je ne supporte plus les hommes. Ils sont pas francs. Ne pense qu'à leur propre.
Tiens, j'ai trouvé ta légende. Le moderne Pénélope.
Pour vous le sentiment, journal. C'est un mensonge.
Et surtout pour mon rédacteur en chef.
Passer des heures.
Ou alors, elle tricote
pour
réchauffer nos
poils. Pouvoir parler. Faire ce que l'on
veut. Rien n'est sacré pour lui.
Sans demander des comptes. À personne.
Les grangiers.
À personne.
Tout ça, c'est bon, je veux pas les voir.
C'est insupportable.
Aujourd'hui, tu t'es pas foulé, reconnais.
Là, je voudrais t'y voir, un dessin par jour.
Bah, je te disais ça pour te faire marronner.
Aller-retour, alors là il y aura un problème si je prends.
Parce que donc, vous désiriez passer par Bienne, hein, c'est pas. Ouais. Non, d'accord. Non, parce qu'après, si tu la vois direct, c'est pas très beau.
Deux heures plus tard, il est arrivé à Lyon. Il trouve une chambre dans un petit hôtel dans le premier arrondissement, l'hôtel Saint-Vincent. Il accepte dans un magasin rue de la République un nécessaire de toilette. Il commence une petite vie tranquille de célibataire. Il a suffisamment d'argent pour vivre plusieurs années. Le matin, il achète son journal et le lit sur un banc place à Tonnet. Et le journal, c'est pour voir jusqu'où la bêtise humaine va. Sans le savoir, il est devenu nihiliste. À 10 heures, il quitte son banc, car les enfants du quartier viennent jouer sur la place. Il n'a rien à faire, il s'en retourne à son hôtel. Les repas, l'hôtelier les lui prépare et a l'autorisation de lui prendre dans sa chambre parce qu'il a payé 6 mois d'avance. L'après-midi, il va se promener dans le quartier.
Poussez-vous légèrement, s'il vous plaît. Hein? Poussez-vous un petit peu, s'il vous plaît.
Au bout d'un mois, sa chambre n'est plus une chambre d'hôtel, mais elle est devenue sa chambre. Elle n'est pas très grande, les meubles sont style galerie Barbès, 1930 ou 25. Il y a une place, une armoire à glace, une table de nuit, une chaise et une table d'ovale. Il ne parle à personne, mais une vie intérieure très forte. Il se sent bien satisfait de sa nouvelle vie. L'été devient de plus en plus chaud, et à Lyon, l'été est lourd. Cela fatigue Frédéric, mais il ne se sent pas le courage de partir. Un après-midi, il est déplacé à Tonnet. Il est pris d'un étourdissement. Sa vue se trouble. Tout tourne. Il a chaud. Ce n'est pas la première fois que cela lui arrive de se sentir essoufflé, d'avoir les jambes qui tremblent et d'avoir des instants courts de perte de mémoire. Cela ne le formalise pas trop. Il croit que c'est dû à la chaleur. Là, sur la place, il s'est senti tomber. Il se réveille et voit devant lui un homme qui doit être un médecin, car il a une blouse blanche, le visage gros, jovial, cheveux et moustaches noires. Il se dit, je dois être couché à l'hôpital. Le médecin parle en se penchant vers lui. Parle en se penchant vers lui. Les bruits dans la tête ont cessé. Il n'entend plus rien. Il n'entend plus rien. Voilà, ça revient maintenant. Le médecin parle en se penchant vers lui. Vous voyez, il s'est réveillé. Il ne peut ni bouger, ni parler. Vous en êtes sûr? À côté de lui, un homme gros et fort. Bien sûr que j'en suis sûr, puisqu'il a eu une attaque. Regardez. Il pose ses mains devant les yeux de Frédéric et tape dans les doigts. Une femme grosse et petite se penche. Vous croyez qu'il fera l'affaire? Bien sûr, madame. Il n'a pas de papier sur lui. Qu'est-ce qu'il va pouvoir me donner gros comme travail? Mais non, madame. Dans l'état où il est, l'homme tape sur l'épaule du médecin et lui demande « A-t-il bon appétit? Combien ça va coûter d'avoir ça chez soi? Très peu. Va-t-il vivre longtemps ?» Le médecin ouvre ses épaules. « Ça peut vivre assez longtemps si vous faites l'intention. » La femme demande « Il restera potable, j'espère. Je vous le garantis. Alors, vous le prenez ou vous le prenez pas ?» L'homme se gratte la tête, fait un signe de tête à sa femme. Elle hausse ses épaules. « On le prend pour 5 000, comme on avait dit. Très bien. » Il sort de son portefeuille des billets qu'il donne au médecin. « Vous l'embarquez de suite ?»« Oui. » »« Bien, je vais prévenir l'infirmière de le préparer. » Une heure plus tard, Frédéric se trouve sur le siège arrière d'une voiture, habillé et coincé par des coussins. Une heure plus tard, la voiture est arrivée dans un petit village à une 60aine de kilomètres entre Lyon et Grenoble, vers la route nationale 6, le Meutier, village de 500 habitants, au pied de coteaux boisés. La voiture s'arrête dans la cour d'une ferme. L'homme et la femme sortent de voiture. L'homme dit « Attends, Je vais chercher les enfants pour qu'ils nous aident à amener le vieux à la maison. Il entre dans la ferme. Et revient, accompagné d'un jeune homme et d'une jeune fille. Le père ouvre la portière de la voiture et 5 paires de mains sortent Frédéric de la voiture. Et le père le tient par un bras, la mère l'autre, les enfants les pieds. On le mène dans la ferme. On l'assoit sur une chaise près de la cheminée. La mère dit, voilà, il sera bien comme ça. Le père,
il faudrait lui mettre une couverture sur les jambes. Marguerite, va en chercher une.
La fille sursaute et sort de la pièce. Le fils, qui est un grand gaillard, tout maigre dans les 22 ans, demande,
pourquoi es-tu obligé d'avoir ça chez toi?
Le père hausse les épaules.
Comme si tu ne savais pas. Ton grand-père a disparu. Si on sait qu'il est mort, comme il nous a déshérité, nous sommes à la rue. Lui remplace son grand-père.
Mais les voisins?
Les voisins, ils verront du feu. Est-ce que tu crois que l'on fait attention à un vieux? Un vieux, c'est un vieux.
Bon, assez parlé. La mère va préparer la soupe. Et tu donneras un bol au vieux. Tous se retirent de la pièce. Frédéric est seul. Comprend-il ce qui lui arrive? Nul ne le sait. La mère s'approche de lui avec un bol de soupe et une cuillère. Elle s'assoit sur une chaise en face de lui. Lui met une serviette au cou et lui donne à manger.
N'est-elle pas bonne ma soupe?
Ah, tu vois, tu seras bien chez nous, tu verras. Une fois qu'il finit de manger, elle lui essuie la bouche et se lève. Elle demande, où va-t-on le mettre pour la nuit? Le père lui crie,
la chaise sous l'escalier.
La mère s'éloigne. Et le vieux reste seul. Une heure plus tard, le père et le fils soulèvent la chaise avec le vieux et le mettent sous les escaliers qui mènent aux chambres. Le père dit,
il faudra lui acheter un fauteuil roulant. Ce sera plus facile pour nous.
La nuit, Frédéric est réveillé par le père et la fille qui courent à l'étage.
Il entend la fille.
Non, père, vous êtes vieux, c'est un vieux cochon.
Laisse-moi aller dans ta chambre.
Non, enlevez vos mains de mes fesses.
Tu n'aimes pas ça. Elle le gifle et entre dans sa chambre.
Le lendemain matin, la mère et la fille ont déshabillé Frédéric jusqu'à la taille et le nettoient avec un gant imbibé d'alcool. La mère dit,
je comprends, il faut qu'il soit bien propre. Ils vont venir le voir et voir comment je m'occupe de lui.
Le père est bien morose ce matin. Tu n'as pas voulu jouer avec lui hier au soir?
Non.
Tu aurais dû. Tu vas voir qu'un de ces jours, il va chercher ailleurs. Il va dépenser tout son argent chez les filles. Tu pourrais bien faire un effort tout de même. C'est pour toi que je le dis aussi. Si tu veux qu'il lui applique toute ta dot, la fille soupire.
120. Et puis il n'enlève même pas ses chaussettes au lit.
Tu dirais d'être propre. Bon, je crois que celui-là aussi est assez propre. On lui remet sa chemise et un coup de peigne.
Le lendemain matin, des voisins arrivent. Ils viennent dire bonjour au Pépé qui est revenu de l'hôpital. C'est les Martins de la ferme voisine. L'homme et la femme, sans âge, de taille moyenne, mais maigre, le nez long. On dit qu'ils boivent beaucoup, mais ils sont estimés au village, car ils savent faire des tisanes savantes pour tous les maux, et même ils trouvent de la terre qui guérit. Elle est verte et calcaire. Les borifères, Arthur et Marie, les reçoivent. L'homme dit,
venez voir le Pépé.
Le Martin lui dit,
Ben oui, cela faisait tellement longtemps qu'on ne l'avait vu. Marie.
Il a bien changé, c'est l'âge.
La femme Martin.
On connaît ça.
Et ils vont tous voir le vieux qui est assis près de la cheminée. Marie se penche vers lui.
Pépé, tu as de la visite. C'est les Martin.
Martin se penche vers lui. L'homme perplexe.
Mais ce n'est pas le même.
La femme.
Tu as raison.
Arthur.
C'est qu'il a bien changé.
L'homme Martin.
Ne nous dis pas que c'est le même. Il ne faut tout de même pas nous jouer la comédie. Allez, dis-nous la vérité.
Arthur regarde sa femme et dit.
Eh bien oui, on a appris un autre, puisque l'autre était décédé. Vous comprenez, j'en avais déclaré le décès du vieux, comme il nous avait déshérité, on serait à la rue. Et puis, cela fait tout aussi bien l'affaire.
Père Martin.
Je comprends, j'aurais fait la même chose que toi.
Mais où avez-vous mis le corps de l'autre?
Au cochon. Il n'en reste rien.
La mère Martin dit.
Il a l'air sage,
Marie.
Il n'y a pas plus sage que lui.
Vous allez le garder combien de temps?
Demande la mère Martin.
Arthur lui répond.
Le temps qu'il reste comme ça. Ça va.
Allez, vous allez boire l'apéro avec nous.
Et il les mène vers la table.
On a acheté un fauteuil roulant, c'est plus facile le soir pour le pousser sous les escaliers.
L'après-midi que la fille est à débarrasser la table, son père la prend à la taille par derrière.
Oh mon gros bijou, tu as un de ces culs toi alors.
Et lui donne une tape sur les fesses.
Père, arrêtez.
Il veut lui mettre la main sur ses seins, elle se dégage. Il lui court après.
Tourne vers le vieux, lui aussi, ce qui fait qu'ils tournent tous les deux autour du vieux.
Il lui dit, tu sais, j'ai des chaussettes neuves. Enfin, il la rattrape. Il lui saute dessus, la fait tomber à terre et lui relève les jupes.
S'ouvre.
C'est la mère qui leur crie.
Pourriez faire ça ailleurs, non? Quelqu'un pourrait rentrer.
Il se lève.
Se range et la fille sort de la pièce.
Le père va s'asseoir à table.
Un soir, le fils va vers le vieux. Il lui met dans sa poche une enveloppe en disant « Personne ne viendra chercher mon pécule ici. » Dans la journée, puisque la porte est toujours ouverte et qu'il y a toujours des miettes à terre, les poules entrent. Elles picorent, déposent des excréments et quelquefois viennent se poser sur cet objet étrange qui se trouve sur un fauteuil roulant. La femme Marie chasse les poules de dessus la table, mais jamais celles qui sont sur Frédéric. Dans son fauteuil, il les entend jouer aux cartes, manger leur café au lait.
Excusez-moi si je vous dérange, je suis après une lièvre que j'ai tirée là-haut sur le...
Un après-midi, Dorarine, la tante Rosette, sœur de la femme, une petite grosse femme, le regard rieur et coquin. Elle est très sensuelle, porte un chignon aux cheveux noirs. Bonjour tout le monde! Elle fait la bise au père, à la mère, la fille et le fils. Alors, il paraît que vous avez changé de vieux? Je lui dis, qui t'a dit cela? On en parle, où est-il? On le mène vers le vieux qui est toujours près de la cheminée. Elle se penche vers lui. Il est mieux que l'autre, en tout cas. Puis se relève. C'est bien, j'avais pensé à tout. Sauf à une chose, figurez-vous que le vieux et moi allons nous marier. Je dis, c'est impossible. On ne peut pas les paralyser. Il n'a pas pu te choisir. Si, parce que avant d'être paralysé, il m'a, par une lettre, promise en mariage. La Marie dit, mais ça ne se fait pas. Je m'y opposerai. Si je ne me marie pas avec le vieux, je dis tout à la police. Tu as dit, qui veux-tu qu'il fasse un mariage pareil? Le maire, il est mon amant. Il sait que je peux le faire chanter. Ne vous en faites pas. J'ai tout prévu. Même la lettre du vieux est prête. Un mois plus tard, le mariage a eu lieu dans la mairie de Moutier. Le fils et le père ont transporté le vieux dans la ferme de la tante. Le fils a repris son magot des poches du vieux. Par ce mariage, la tante devient légataire universelle de la fortune du vieux. Enfin, le vrai vieux qui détenait la moitié des terres du pays. Voilà. La vie de Frédéric n'a pas changé. Il est toujours près d'une cheminée et le soir dans un renfoncement de la cuisine. La tante, sa femme, le soigne moins bien que les autres parce qu'elle n'a pas besoin qu'il vive pour hériter.
Un soir, son neveu Auguste vient la voir. Bonjour ma tante.
Bonjour monsieur.
Alors, que viens-tu faire chez ta tante ?
Rien, je suis venu te dire bonjour.
Tu es venu à dire bonjour à ta vieille tante ?
Vieille, pas si vieille que ça, ma tante.
Il n'y a pas si longtemps que ça, vous mettiez le feu aux joues lorsque vous m'embrassiez.
Et maintenant ?
Il s'approche d'elle. Lui sent le visage, toujours autant. Il donne un baiser, la plaque contre lui, et lui touche ses seins. La tante sourit.
Tu es en chaleur, mon poulain.
Oui, j'ai envie de te chevaucher. Il lui met la main entre les cuisses. Elle frémit. Mais la tante adore les jeunes hommes.
On va dans ta chambre. Et puis non, j'en ai trop envie. Il la renverse sur la table.
Il soulève les jupes et se déculotte. Et la chevauche, elle frémit. Désormais, ils se voient une fois par semaine. Un soir, il entre chez elle. Il la pousse au milieu de la pièce. Il l'embrasse sur la bouche, lui soulève les jupes, il frétille. Tu aimes ça?
Oui.
Oh, ta moumoute, donne-la moi. Il la prend à pleine main. C'est bien avec toi, tu ne portes pas de culotte. Sans culotte, ça me permet de pisser debout les jambes écartées comme les hommes dans les champs. Oui, prends-moi, prends-la moi. Oui. Salope. Un jour, après avoir fait l'amour à terre sur le carrelage de la cuisine, il lui dit :
à quoi ça te sert de garder ce vieux ?
Plus vite il mourra. Plus vite tu hériteras, et nous vivrons heureux, tous les deux.
Mais comment faire?
C'est facile. Laisse-le sans nourriture pendant quelques jours, et il crèvera.
Mais que veut dire le médecin?
Des vieux dans son camp, il en meurt tous les jours.
Le lendemain, elle met le vieux dans la grange.
Elle le laisse 2 jours sans soins et le retrouve mort.
Une fois enterré, elle hérite.
Son neveu va la voir tous les soirs et de temps en temps, il lui demande de l'argent.
Un soir, le père dit à son fils :
il faut qu'elle t'en donne le plus possible. Tu dois récupérer le magot.
Ne t'en fais pas. Elle aime tellement se faire foutre qu'elle ne peut rien me refuser.
prise comme jeune fille une domestique, c'est Vitalie, elle a 21 ans, blonde, mignonne. Vitalie a remarqué le neveu, mais sans que la tante est jalouse. La tante, elle, donne sans compter à son neveu. Elle est folle de lui. Les mois passent et l'argent aussi. Un soir, dans la chambre de la tante qui est à moitié nue sur son lit, le neveu est debout, habillé et fait les 100 pas. « Tu ne veux pas me donner cet argent pour que j'achète cette moto ?»« Ce n'est pas que je ne veux pas, mais je n'ai plus d'argent. »« C'est ton dernier mot ?»« Oui. » Alors, il va vers la sortie. Court vers lui et se jette à ses pieds. Lui entoure les jambes. Ne pars pas, je t'en supplie. Lâche-moi. Non, ne pars pas. Donne-moi de l'argent. Je n'en ai plus. Mais si tu veux, prends mes bijoux qui sont sur la commode. Il se dégage et court vers la commode. Ouvre le coffret. Prends les bijoux. Qu'il met dans sa poche. Elle retourne se coucher. Salope. Elle lui tend les bras, loue ses épaules et sort de la pièce. Se lève, sort de la chambre. Mais il a déjà quitté la maison. Au bout du village, l'attend près d'une moto Vitalie. Il court vers elle, l'embrasse et lui dit « Voilà, c'est fini, nous sommes riches. J'ai donné qu'une infime partie de ce qu'elle me donnait à père. Le reste, je l'ai mis à la banque. Viens, partons, allons à Lyon. » Se sont embrassés et sont partis dans la nuit. Avec leur magot, ils ont acheté un bureau de tabac, café à la Croix-Rousse et vivent heureux. Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Vieux, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.